enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Imaginez, vous êtes, peut-être pas vous, mais moi, je suis en retard. Quelque part, j'ai devant moi quelqu'un qui doit avoir dans son arbre généalogique une grande tante, qui devait être une limace. Et ça se sent encore dans la façon dont elle prend la voiture. Et je suis derrière, et là, j'ai vraiment l'impression, finalement, Sartre n'a pas tout à fait tort. Finissez une journée, vous êtes harassé par le boulot, vous venez vous dire, enfin, je suis fatigué, je rentre une heure ou deux heures plus tard que d'habitude, je vais prendre ma douche, ce soir, il me faut une soirée cool. Dring, ça sonne à la porte. Ou, oh non, vous terminez avec cette personne qui veut absolument vous vendre un quatrième aspirateur, vous en avez gardé deux cassés, plus celui qui marche, donc pourquoi vous prendriez un autre? Et vous vous débarrassez enfin de ça, vous allez dans la douche et le téléphone sonne alors que vous êtes en train de préparer une soirée d'un anniversaire avec un membre de la famille. Et puis vous dites, mais c'est pas possible. Et dans ces moments-là, on n'a pas l'impression qu'on est vraiment heureux des autres. Mais moi, je crois, et je vous assure, c'est quelque chose que j'ai appris. Ça fait 2 ans que j'ai demandé au Seigneur de travailler dans mon cœur pour la compassion. La compassion, c'est un mot dans le Nouveau Testament qu'on retrouve souvent. Jésus était ému de compassion. Ça veut dire qu'il est touché suffisamment dans ses émotions pour vouloir agir. Et ce matin, c'est vraiment ce que j'aimerais, que le Seigneur nous touche à tel point, à l'intérieur, qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est ça la compassion. Et depuis 2 ans que régulièrement je prie personnellement, Seigneur, augmente ma compassion, touche mon cœur. Dieu a fait des choses, donc je prends le contre-pied de Jean-Paul Sartre et moi je dis le paradis, c'est les autres. Parce que j'ai vraiment expérimenté une chose, c'est qu'à chaque fois que je me décentre de moi-même en servant les autres, en me préoccupant des besoins des autres, en mettant à l'écoute du cœur de l'autre, de l'impression de l'autre, à chaque fois, vous savez ce qui se passe? Je suis plus heureux. Et je crois que c'est vrai que nous vivons un moment où dans ce mois-ci, ce sont les solutions pour transformer nos vies. C'est le thème de tout le mois. Et ce matin, le cœur de mon sujet, en parlant du défi Miché, c'est comment surmonter notre égoïsme, comment quitter cet égoïsme. En écrivant ce texte, « Le paradis, c'est les autres », j'ai découvert que Sœur Emmanuelle a écrit un livre que je n'ai pas lu, qu'elle a intitulé « Le paradis, c'est les autres ». Comme quoi, il y a plein de gens qui ont les mêmes idées ou les bonnes idées. Proverbe 11, 17 nous dit « Faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même. Mais l'homme insensible creuse son propre malheur. » S'il y a un verset biblique qu'il vous faut retenir ce matin, c'est celui-là. « Faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même. » En fait, chaque fois que je fais du bien aux autres, le paradis est plus proche de moi. Le paradis, c'est les autres. Eh non, Sartre, c'est pour ça que tu as fini si malheureux. C'est pour ça que tu avais une gueule à faire peur à tous les enfants. Parce que quand on croit que l'enfer, c'est les autres, il y a quelque chose qui devient aigri, sombre dedans nous. Et je sais parce que j'en ai bu du lait de Sartre et de cet existentialisme. J'en ai bu quand je faisais ma philosophie, etc. Mais j'ai compris une chose. Quand Jésus nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Détournez-vous de vous-même pour regarder aux autres. Alors vous allez être plus heureux et c'est vraiment ce à quoi j'ai goûté. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, le dimanche du défi Miché, 15 octobre 2006. Aujourd'hui, dans tout le monde entier, toutes les églises de plein de pays prêchent à ce sujet-là. Et c'est quoi le défi Miché? En l'an 2000, les chefs d'État à l'ONU de 191 pays se sont engagés sur 8 objectifs pour le développement, qu'on appelle les OMD. Donc ça, ce sont des chefs d'État. Et les chrétiens dans le monde entier, de toutes les dénominations, il y a des centaines d'agences missionnaires, toutes les dénominations sont prises dedans. On dit, et si nous nous levions pour rappeler à nos chefs d'État, nos chefs de gouvernement, d'être fidèles à leurs engagements et de réduire la pauvreté qui est là dans le monde d'ici 2015 de moitié. Et ils ont pris, puisque les chefs d'État ont ciblé 8 objectifs, les chrétiens ont commencé à dire, nous allons rappeler aux chefs d'État de faire cela, mais nous ne pouvons pas rappeler aux chefs d'État leur devoir en oubliant le nôtre. C'est pourquoi ce n'est pas juste qu'un mouvement mondial, gigantesque, grand, des choses qui se passent là-bas. Ça se passe au loin et ça se passe dans ma vie. Ça va changer les choses dans ma vie de la même façon. Donc l'appel Miché, le défi Miché, nous vivons un moment unique de l'histoire. Vous allez découvrir ce texte dans le hall, c'est sur les panneaux d'affichage et ce sera encore plus grand la semaine prochaine sur les panneaux. Nous vivons un moment unique dans l'histoire où les intentions exprimées par les dirigeants pauvres rejoignent une partie, par les dirigeants mondiaux en ce qui concerne les pauvres, rejoignent une partie des écrits prophétiques de la Bible et l'enseignement de Jésus. Juste au moment où existent les moyens de réduire de manière significative la pauvreté. En tant que disciples de Jésus, nous nous engageons à travailler en vue de la transformation intégrale de nos communautés, à pratiquer la justice, à aimer agir avec bonté, à marcher humblement avec Dieu, selon Michée 6:8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. Nous lançons un appel aux décideurs internationaux pour atteindre les objectifs du millénaire, donc pour le développement, les OMD, et donc de réduire de moitié la pauvreté absolue dans le monde avant l'an 2015. Nous lançons un appel aux chrétiens, donc ça c'est nous, du monde entier, pour qu'ils soient porteurs d'espérance et avec et pour les pauvres. Nous les appelons aussi à collaborer avec d'autres afin de veiller au respect des engagements pris par nos responsables nationaux et internationaux pour un monde plus juste et plus humain. J'aimerais vous montrer ce dont il s'agit quand on parle de ces 8 OMD du défi Michée, avec ce chant de Pierre Lachat qui dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ». Objectif numéro 1, éliminer l'extrême pauvreté et la faim. Les cibles, diminuer de moitié entre 90 et 2015 la proportion de personnes aux revenus inférieurs à 1 euro par jour. Il y a des gens qui vivent avec 30 euros par mois dans ce monde. Assurer une éducation primaire pour tous. Deuxième objectif, la cible. D'ici 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un cycle complet d'études primaires. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. La cible, éliminer les disparités entre les sexes à tous les niveaux de l'enseignement pour 2015 au plus tard. Chaque fois, il y a une petite histoire ici, mais ce matin, on ne va pas lire l'histoire. En tout cas, vous retrouverez cela en document. Et toute personne qui est intéressée par cela, nous en parlerons plus en détail, même dans notre ciel ouvert. Parce que si on veut voir le ciel ouvert, Dieu nous dit « Occupez-vous des gens dont personne ne s'occupe. Et moi, je vous ferai grâce d'ouvrir le ciel. » Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Entre 90 et 2015, de réduire des 2/3 la mortalité des enfants de moins de 5 ans, qui est énorme dans le monde. Cinquième objectif, améliorer la santé maternelle, réduire de 3/4 le taux de mortalité maternelle. Il y a environ 529 000 femmes qui meurent chaque année au moment de l'accouchement. 99% sont origine des pays en développement. Et 80% de ces décès peuvent être facilement évités. Combattre le VIH et le sida, le virus, donc le paludisme, la polio, d'autres maladies. Il y a des moyens assez faciles, peut-être pas en ce qui concerne le sida, mais il faut qu'on s'y attaque, mais en tout cas en ce qui concerne le palu ou la malaria et d'autres maladies. Il y a des moyens de réduire cela réellement et d'ici 2015, avoir réussi à maîtriser le paludisme. Objectif 7, assurer un environnement durable. Donc intégrer les principes de développement durable dans les politiques nationales et améliorer sensiblement la vie d'au moins 100 millions d'habitants de Todi et le pourcentage de gens qui ont accès à l'eau potable. Ça, ce sont nos dirigeants qui ont décidé cela. Et enfin, dernier objectif du défi Michée, mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Et ainsi, pour chaque euro dépensé pour l'achat de thé au supermarché, moins de 15% revient au producteur local. Quand vous voyagez en Afrique, voyagez dans les pays du tiers-monde, vous voyez des gens qui se tuent au travail du matin au soir et ils sont complètement exploités. Et quand nous achetons notre café, notre thé, quelque part, nous sommes là sans faire attention à prendre des choses écrites « commerce équitable ». Et quand nous le faisons, ça change quelque chose pour eux parce que simplement, ils vont avoir un peu plus parce que les gens qui achètent cela veillent à ce que les producteurs puissent vivre. Et c'est pour ça, je dis, il y a des fois des petits changements dans nos vies qui peuvent nous amener à voir cela différemment. Vous avez peut-être vu cette campagne à la télévision il y a quelques années.
Toutes les 3 secondes, un enfant meurt à cause de l'extrême pauvreté. un enfant, un autre, encore un autre. Signez la pétition contre la pauvreté par SMS au 61199.
Alors, là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui lui prend à Philippe ? On dirait qu'il est le messager des grandes causes mondiales. Et moi, ce que je crois, vous m'entendez souvent dire cette phrase-là, je crois qu'il nous faut toujours penser mondialement et agir localement. On doit penser mondialement parce que si nous ne pensons pas mondialement, nous ne savons pas ce qu'il est en train de se faire dans le monde, on n'est plus des saints, on est des marginaux. On vit dans notre petite planète, dans le monde du moi. Alors il y a le monde du moi, puis il y a le monde du moi béni. Ça c'est l'égoïsme chrétien. Le moi béni. Seigneur, bénis-moi. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui déforme la façon dont nous pourrions servir Dieu et dont nous pourrions être efficaces. Penser mondialement, agir localement. Il y a des actions universelles, mais il y a des actes personnels à poser et ce qui vont nous apprendre à sortir de l'égoïsme. C'est pour ça que je crois qu'il nous faut toujours voir la grande histoire dans le monde et la petite histoire, celle de l'église locale, celle de nos vies personnelles. Il y a un mouvement qui est là dans le monde qui s'appelle ce défi Miché, où dans 2 jours, vous savez, dans 2 jours, c'est la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Donc c'est pour ça que c'est le dimanche du défi Miché maintenant, parce que les chrétiens accompagnent cela. Dans 2 jours, vous allez entendre parler de cela dans les journaux, la télévision, etc. Qu'est-ce que dans mon histoire à moi, ça peut changer ? Moi, je ne peux pas changer le monde. L'église clé ne peut pas changer le monde. Mais chacun d'entre nous, nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons avoir une influence sur notre monde. Il y a une grande différence entre changer le monde et influencer notre monde. Chacun d'entre nous a un monde. Chacun d'entre nous a un village, un quartier, un endroit où il fait des achats, une profession. Chacun d'entre nous a un monde et nous pouvons influencer ce monde. Et c'est pourquoi j'aimerais ce matin qu'on puisse réconcilier cette grande histoire du défi Miché, de la lutte contre la pauvreté dans le monde et se dire, et nous, et moi dans ma vie, qu'est-ce que ça va changer lundi matin ? Avec quoi je vais repartir lundi matin? C'est pour ça que je vais vous donner des informations, mais mon défi, il n'est pas sur l'information du défi Miché. Je voudrais vous donner des informations, le pourquoi est-ce qu'on fait ça, la grande histoire, mais je veux terminer ce matin par des applications très pratiques pour nos vies, de sortir de l'égoïsme. Donc, mon plan, c'est penser mondialement, agir localement, voir les textes bibliques qui nous parlent et la pratique des chrétiens sur la justice, et puis quittons le pôle ou le monde de l'égoïsme pour le monde des besoins humains. Terminer, quelles actions pour nous? Est-ce que Sandrine nous a dit tout à l'heure, fait partie déjà des actions pour nous? Voilà, je vous dis, il nous faut penser grand, mais pas toujours trop grand. Pensez grand, mais pas trop grand. Ça veut dire, ne restez pas juste dans les grandes pensées. Ah, le défi Miché dans le monde. Oui, le défi Miché dans le monde fait aussi le petit défi dans ma vie, lundi, cette semaine, le petit défi de solidarité de ceux qui travaillent là dans le hangar. Think big, pense grand. Mais pas trop grand, pas trop grand. Ce que nous avons déjà fait ici à Clé. Et je voudrais nous le rappeler parce que parfois on me dit on ne le sait pas. Alors on l'a déjà dit, sûrement pas assez, je confesse le manque de communication ici. Mais c'était dit davantage dans les cultes internationaux qu'on avait le dimanche après-midi. Donc vous qui n'y veniez pas, vous n'avez peut-être pas pu savoir, ou si vous n'étiez pas là dimanche dernier, ou vous étiez là dimanche dernier, il y avait beaucoup de monde, vous rappelez des 500 enfants qui, après la guerre au Liban récemment, ont reçu leur cartable avec toutes les fournitures scolaires au sud Liban et à Beyrouth, parce que vous avez donné de l'argent dans cette offrande qu'on a pu envoyer. Je ne vous refais pas tout le montage de dimanche dernier, mais souvenez-vous, il y a des enfants pour qui nous avons fait une différence. Donc, think big, but not too big. 500 enfants, quand même, on peut aller à l'école. Et moi, ça me met de la joie. Pourquoi ? Faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même. Je me rappelle dimanche dernier, quand j'ai montré tous les remerciements, toutes ces photos, vous avez applaudi parce que c'était tellement satisfaisant. Et c'est vrai. Je me rappelle au Burundi, quand il y a 2 ans ou 3 ans, nous avons reçu une maman ici qui s'appelle Virginie. Virginie était là et puis moi, j'étais content. Virginie vient, puis monsieur et madame Villebrun, les parents d'Olivier l'ont reçue et d'autres dans l'église l'ont accueillie, mais eux ont payé un certain prix pour elle. Et puis, quand nous sommes retournés au Burundi après, un soir, on est invité à la maison là-bas avec son mari, qui n'est pas chrétien, ou plutôt qui ne l'était pas jusqu'à ce moment-là. Et les enfants sont venus nous trouver en disant, merci pour notre maman, merci pour notre maman, puis avec des larmes aux yeux. Mais moi, je voulais comprendre, qu'est-ce qu'on a fait pour votre maman? Qu'est-ce qu'on a fait pour toi, Virginie? Elle a dit, si je ne pouvais pas venir en France, si je n'avais pas pu recevoir cet accueil que vous m'avez donné, je ne pouvais pas vivre 6 mois de plus. J'allais mourir. Et moi, je n'étais pas conscient de ça. Dire, oh Seigneur, merci. Bella est là, elle peut témoigner. Quand Virginie est revenue à l'aéroport, l'église l'attendait, tout le monde applaudissait parce qu'il rendait grâce au Seigneur qu'une maman a pu être guérie. Think big, pense grand. Mais aussi, pas toujours grand. Ici, c'est petit. C'est 4 enfants dans une maison. Mais pour eux, ça fait une différence d'avoir une maman aujourd'hui. Grâce à vous. Grâce à vous. Alors on fait des petites choses, mais on continue à se décentrer de l'égoïsme et se centrer sur les autres parce que ça fait tellement de bien. Quand je vois même ces enfants aujourd'hui, les enfants du sida, les enfants, vous avez près de 1000 enfants à l'école du dimanche le matin. Et quand je vois le pasteur d'enfants là-bas qui n'avait pas de moyens, il y a 1 an et demi, on a fait une offrande ici, vous avez été nombreux à donner, et cette dame a reçu plus de 1000 euros pour s'occuper des enfants, parce que bien souvent elle vient, elle n'a rien en main, et elle a 800 enfants qui courent sur elle, et elle doit s'occuper d'eux, parce qu'il n'y a pas les bébés dedans, mais tous les autres courent, elle doit s'occuper d'eux, et elle n'a rien. Elle s'appelle Cosette. Quand je voyais Cosette agir comme ça, je suis tellement heureux qu'on ait pu faire quelque chose pour elle, et on a fait d'autres choses pour eux, il faut continuer, c'est précieux. Au Maroc, depuis plusieurs années, nous envoyons de l'argent là-bas sur la dîme des dîmes. Plusieurs personnes de l'église ont parrainé un enfant quand on était dans l'ancien bâtiment. On nous avait demandé de parrainer des enfants. Isabelle et moi, ça fait 7 ans qu'on parraine un enfant dans l'école de sourds d'une ville au Maroc. Et chaque fois que j'ai l'occasion de lire les nouvelles ici, je dis « Seigneur, merci, ça fait la différence dans la vie de quelqu'un et ça fait une vraie différence ». En Israël, nous avons aidé une œuvre qui s'appelle Beat Chaim avec le pasteur Tony Sperandeo. C'est une œuvre qui aide les mamans qui veulent avorter. Vous savez, Israël est un pays dans lequel toute femme peut avorter pendant son armée 3 fois gratuitement. C'est remboursé. Donc, il y a vraiment des sacrifices d'enfants. Les enfants meurent. Ils sont tués, éliminés très facilement. Mais quelqu'un s'est levé, ou plusieurs, mais quelqu'un a dit, on va bâtir des maisons pour la vie. Beat Chaim veut dire pour la vie. Et nous avons envoyé depuis 10 ans une partie de notre dîme des dîmes en Israël pour que des bébés soient épargnés. Sachez une chose, on pense grand, on fait petit, mais des bébés ont leur vie sauvée. Il y a aujourd'hui en Israël des enfants qui marchent, qui vivent, qui respirent, qui mangent et qui peut-être connaîtront Dieu, et c'est notre prière, grâce à vous, grâce à ce que nous faisons ici. Donc, c'est pas très grand, mais on fait quelque chose ici. Et je crois que nous sommes dans la plus grande compagnie qui existe au monde entier. Je préfère travailler dans l'église que dans Coca-Cola parce qu'ils sont trop petits. C'est trop petit Coca-Cola, c'est trop petit Microsoft, c'est trop petit. Moi, je préfère l'église. Vous pouvez aller dans des endroits les plus reculés de la terre, dans les déserts. Vous trouvez quoi? Vous arrivez là, vous trouvez une église. Ils n'ont pas encore les Microsoft ni le Coca. Et pourtant, Coca, ils font des efforts pour être partout. Mais l'église est encore devant. Ils nous courent derrière. Et puis, ça fait 20 siècles que ça dure. Et on va bouleverser le monde entier. Nous sommes dans une compagnie qui a le potentiel. Si nous nous décentrons de nous-mêmes pour recevoir l'amour de Jésus en nous, être bougé intérieurement à tel point de vouloir faire quelque chose dans le concret, nous pouvons faire quelque chose qui fait une différence pour beaucoup dans ce temps. Alors, je vous parle de la grande histoire. En Lausanne, en 1974, je le dis en lausannois, en 1974, donc, il y avait un grand congrès. Pour vous situer un petit peu ce que l'on fait, pourquoi on le fait. En 1974, le congrès de Lausanne était la rencontre qui a marqué un tournant dans la mission moderne du 20e, 21e siècle. Il y a là 2500 délégués qui viennent de 150 pays, plein de dénominations différentes. Et c'est la première fois que nous avons reconnu que l'ordre missionnaire n'est pas uniquement des blancs vers le tiers-monde. C'est la première fois où les chrétiens du tiers-monde se levaient pour dire, écoutez, le christianisme, ce n'est pas une affaire de blancs. C'est une affaire de tous, universelle. Et c'est un partenariat qu'il nous faut avoir et pas juste un missionnaire blanc qui vient s'occuper de nous. C'est extraordinaire comme changement. Et c'est pourquoi ce congrès de Lausanne reste une grande référence pour la mission au 21e siècle. C'est aussi la première fois où on a fait part des griefs à l'égard du christianisme culturel. On a amené un christianisme occidental partout. Et ce congrès a resitué toute la mission et toute la façon dont nous pouvions faire une différence dans ce monde. Il a affirmé la priorité de l'évangélisation, les peuples non atteints qui restaient, mais aussi a réaffirmé la dimension sociale de l'évangile. La déclaration de Lausanne reste un texte de référence pour la mission mondiale au 21e siècle. Et j'aimerais, avec vous, lire le petit chapitre 5 de cette déclaration de Lausanne. qui concerne la responsabilité sociale du chrétien. Sachez une chose, toute la mission des croyants au 21e siècle repose là-dessus. Je sais que je vous amène dans la grande histoire, mais on ne va pas y rester longtemps. C'est juste qu'on comprenne, c'est quoi qui est derrière tout ça? C'est quoi ce... Ça part d'où ce défi Miché? Ça part d'où cette évangélisation mondiale? Ça part où? D'où cette affaire des peuples non atteints à évangéliser? Ça part d'où que l'Église est l'agent de transformation qui peut être l'espoir du monde au 21e siècle pour amener des changements notoires dans le monde? Ça part de ce texte, de la part de la Bible, mais actualisé dans ce texte de Lausanne qui est la référence pour la mission au XXIe siècle. Nous affirmons que Dieu est à la fois créateur et juge de tous les hommes. Nous devrions par conséquent désirer, comme lui, que la justice règne dans la société, que les hommes se réconcilient, qu'ils soient libérés de toutes sortes d'oppressions. L'homme étant créé à l'image de Dieu, chaque personne humaine possède une dignité intrinsèque, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, sa culture, sa classe sociale, etc. Nous reconnaissons avec humilité que nous avons été négligents, nous avons parfois considéré l'évangélisation et l'action sociale comme s'excluant l'une l'autre. Néanmoins, nous affirmons que l'évangélisation et l'engagement sociopolitique font tous deux partie de notre devoir de chrétien. Tous les deux sont l'expression nécessaire de notre doctrine de Dieu et de l'homme, de l'amour du prochain et de l'obéissance à Jésus-Christ. Le salut dont nous réclamons devrait nous transformer totalement dans notre façon de répondre à nos responsabilités personnelles ou sociales. La foi sans les œuvres est morte. C'est pourquoi nous pouvons trouver dans la Bible, et Sandrine nous l'a dit tout à l'heure, des textes qui nous encouragent, qui basent le fait que nous allons faire, nous allons nous impliquer pour ce monde. Alors, certains disent, avec une méconnaissance totale de l'Écriture, mais la Bible dit, n'aimez pas le monde, plus c'est pire dans le monde, mieux c'est pour nous, comme ça Jésus revient bientôt. Ça ne s'appelle pas de la doctrine, ça s'appelle de la stupidité, ça. La doctrine biblique ne dit pas cela. La doctrine biblique nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Alors oui, un texte dit, n'aimez pas le monde. Alors comment on peut faire ne pas aimer ce que Dieu a tant aimé? C'est pas simplement, il y a deux mots différents. Le mot « aion » qui veut dire le monde dans sa condition déchue. N'aimez pas l'état d'esprit du monde, la déchéance, la destruction qui agit dedans. N'aimez pas l'égoïsme du monde. N'aimez pas l'état d'esprit qui dit « chacun pour soi ». Mais le cosmos, c'est la terre habitée dans l'harmonie. Dieu a tant aimé le cosmos qu'il a donné son Fils unique. Et la terre habitée, Dieu nous demande d'aimer ce monde-là et de nous préoccuper de ce monde-là. Il y a un père de l'Église, s'appelle Dionette, qui a écrit une épître dans laquelle il dit « Le chrétien prendra moins soin du monde et en même temps davantage soin du monde que la personne qui n'est pas chrétienne. Il ne perdra pas son cœur en lui, mais il pourra perdre sa vie pour lui. » C'est pourquoi je crois que quand les chrétiens se préoccupent du monde, qu'ils agissent en obéissance aux ordres de Dieu, à l'amour de Dieu, chaque action que nous avons, même dans notre petit coin, même localement, est une semence de transformation pour ce monde. Ne voyons pas juste la grande histoire de « je peux rien faire ». On se décourage si on regarde la grande histoire. Mais on pense globalement, on regarde la grande chose et on dit « et nous localement, et moi personnellement, comment je peux faire ?» Mais chaque action va changer quelque chose. Là-dessus, c'est une petite précision. Certains se disputent toujours quand on parle de justice parce que pour eux, la justice, c'est être droit. Ça veut dire qu'il y a un gars qui est en panne de l'autre côté de la route. Quelqu'un passe et pour lui, il va traverser pour aller l'aider. Mais il y a une ligne jaune et un petit monticule qui est là. Celui qui aime la justice morale dit « Non, ce n'est pas juste de traverser la ligne. Tu dois aller jusqu'à la prochaine sortie, faire demi-tour et revenir l'aider. » Ça, c'est la justice morale, faire ce qui est droit. Et l'autre dit « Je m'en fous de ta justice morale. Pour moi, ce qui compte, c'est la justice sociale, l'équité. » Ça veut dire aider quelqu'un. Quitte à passer sur une ligne jaune, peu importe. Alors c'est une petite caricature, une petite image pour que vous gardiez ça en tête. Et bien souvent les gens se disputent là-dessus. Quand on dit justice, un veut dire droiture et l'autre veut dire équité. Ça veut dire distribution saine et bien proportionnée des ressources entre différentes personnes. Donc on n'est pas là pour se disputer, on est là juste pour dire quand même, Dieu fait des choses grandes dans ce monde et c'est lui que nous voulons glorifier et servir. Je vais nous dire ce matin que le monde a été transformé par les actions des chrétiens qui ont agi localement. Par exemple, dans l'Empire romain, quand l'Évangile est arrivé, il y avait une loi qu'on appelait le pouvoir du père, patria potesta, qui permettait à tout père de tuer sa deuxième fille ou tout enfant tant qu'il n'avait pas 12 ans. À tout moment, un père, s'il était un citoyen romain, faisait ça et un soldat éliminait son enfant jusqu'à 12 ans. Pouvoir du père, de vie de mort sur chaque enfant. Donc imaginez, une grosse colère, il fait ça et c'est fini. C'est quand même terrible. Mais quand l'évangile est arrivé, les gens découvraient, Dieu a fait l'homme à son image, l'être humain a une valeur. Et donc, avec ça, on a aboli cette loi et la vie humaine a été améliorée grâce à l'évangile qui a pénétré. C'est la même chose avec la réforme qui a amené une grande quantité de transformations sur le développement économique, le développement de la valeur du travail. On est sorti de la pauvreté, de la misère. Moi, je voudrais vous dire une chose ici, vous allez m'entendre le dire souvent. Je ne crois pas qu'on peut aider les pauvres avec l'esprit de pauvreté. Je crois qu'on peut aider les pauvres avec un esprit d'abondance. Je voudrais que vous soyez tellement prospères, que Dieu vous rende tellement riche, que vous allez avoir les moyens de faire ce que le Samaritain a fait lorsqu'il s'est arrêté pour aider ce gars qui était blessé ici. Souvent, on critique le scribe et le pharisien. Et c'est vrai, il y a de quoi les critiquer. Mais je me dis, s'ils étaient payés de la même façon qu'on paye parfois les pasteurs dans le monde protestant évangélique français, pas étonnant qu'ils ne s'arrêtaient pas. Ils n'auraient pas pu faire grand-chose pour lui. Donc, parenthèse fermée. Mais ce que je veux dire ici, c'est que moi, je crois, ce n'est pas parce qu'on s'intéresse aux pauvres qu'il nous faut penser à un nivellement par le bas. Je crois que nous avons les moyens d'aider les plus bas quand nous sommes le plus haut possible. C'est pourquoi je continue de prêcher que Dieu veut nous rendre prospères. Et les réformés ont fait cela. Ils ont prospéré. C'est pourquoi ils ont pu s'occuper convenablement de leur nation ensuite. Dès le début du réveil méthodiste, les ouvriers priaient dans les usines, les mines. Les Bibles se vendaient par milliers. La police était tranquille dans plusieurs villes. Les biens volés étaient restitués. La fraude avait diminué de plus de moitié dans cette nation-là. L'armée du salut a transformé toutes les conditions de vie en Angleterre début du XXe siècle, à tel point que même le fondateur était même reçu par la reine comme une personne d'honneur là-bas. La création d'écoles, j'aimerais bien ne pas oublier cela. C'est Victor Hugo qui nous disait « Celui qui ouvre une école ferme une prison ». Et c'est vrai, toute l'éducation que les chrétiens ont amenée pendant si longtemps a changé la vie de nos sociétés. Donc ça, c'est pour le passé, c'est ce qui est derrière nous. Et on va devoir se poser la question, qu'est-ce qui est aujourd'hui devant nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons vu ces dernières années des cités transformées, mais nous avons encore, nous, des choses à faire. Et donc Dieu, lui-même, est préoccupé par la justice. La Bible nous dit la justice est la base de son trône. Il aime la justice et il a de la haine pour l'iniquité. Dieu souffre quand il voit de l'injustice. Il est Yahvé Tzid que nous, ça veut dire, c'est son nom justice. Son nom veut dire son identité. Dieu est amour, mais Dieu est justice. Adorer Dieu, ce n'est pas juste une expérience mystique et spirituelle. C'est mystique si ça ne nous change pas dans notre action. Il y a l'onction et il y a l'action. Quand on a les deux, on est heureux. Quand tu n'as que l'onction, visite la terre de temps en temps, ça te fera du bien. Et si tu as que l'action sans l'onction, attention, il faut mettre du carburant dans une voiture si jamais tu veux traverser l'Europe. Ça veut dire que tu ne peux pas toujours courir juste avec l'action si tu n'es pas ressourcé par la présence de Dieu. C'est pourquoi il y a ce culte ciel ouvert, vendredi soir. On a besoin d'être ressourcé d'en haut pour pouvoir agir comme Dieu l'attend de nous. Et Dieu établit le principe divin pour l'humanité. Aime ton prochain comme toi-même. Et dans le Nouveau Testament, Pierre le rappelle, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice envers son prochain est agréable à Dieu. Il y a toujours ces deux dimensions. Aime Dieu et aime ton prochain. Dans l'histoire de l'Église, tout au début, donc, il y avait cet enseignement sur l'abondance, sur le partage dans l'abondance. Je reviens là-dessus. Je disais cela, je ne crois pas que l'Église peut prêcher le soin aux pauvres si nous ne prêchons pas aussi la prospérité. Parce qu'il ne s'agit pas de vous dépouiller pour donner aux autres. Dans la circonstance présente, votre superflu, ça veut dire qu'il y avait même parmi eux du superflu. C'est à partir de votre superflu que vous allez pourvoir aux besoins des autres. Dieu veut nous combler à tel point que nous allons avoir le cœur et les moyens de faire quelque chose pour les personnes plus pauvres. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que j'ai souvent vu que les gens qui s'occupent des pauvres commencent à regarder tellement les pauvres qu'ils deviennent pauvres, que leur mentalité devient étriquée, aigrie, etc. J'étais hier soir béni d'être au concert de Pierre Lachat, le concert justement pour le défi Miché dans une église ici, je vous avais annoncé dimanche dernier. Et j'étais heureux de voir un gars qui prêche la justice et qui n'est absolument pas aigri. Il est joyeux, heureux de vivre. Et je dis, là, il y a quelque chose. Parce que j'ai vu tellement de gens s'identifier à ceux qu'ils servent que peu à peu, ils perdent leur joie, leur source. Et je crois qu'il nous faut vivre cette abondance de Dieu. Ils partageaient le produit entre tous selon les besoins. Une grande grâce reposait sur eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Et je peux croire ici qu'effectivement, lorsqu'il y a un partage plus fort avec les indigents, Dieu trouve du plaisir. Je vous disais tout à l'heure que Dieu ne, ne trouve pas quelque chose d'agréable pour lui, si on ne fait juste qu'être en train d'adorer et jamais agir envers notre prochain. Dans le prophète Amos, il dit, écoutez, je supporte plus vos cultes. Je supporte plus votre musique. Taisez-moi tout ça, je ne peux plus supporter. Mais agissez dans la droiture. Regardez, les pauvres sont vendus pour une paire de souliers. On prend une petite fille et on l'envoie vers un monsieur âgé et ensuite vers son fils, un homme. Ils prennent ces petites filles comme des prostituées. Et ensuite, une fois que vous vivez ça, vous ne faites absolument pas attention à toutes ces souffrances. Vous venez devant moi et vous faites simplement que chanter. Chanter n'est pas suffisant. Dieu veut cette connexion avec lui au point de nous toucher pour nous donner son cœur, pour agir différemment envers ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui souffrent. Moi, je crois que quand quelqu'un arrive dans l'Église, c'est un nouveau départ, mais un nouveau départ devrait être un jubilé. Qu'est-ce que c'est qu'un jubilé? C'est recommencer avec une possibilité de réussir. Ça veut dire peut-être s'il est très riche, il pourrait être confronté au besoin de réévaluer son style de vie. S'il est démuni, l'Église devrait l'aider à retrouver une situation acceptable par un bon accueil, par une aide financière, par un accompagnement à savoir faire un budget, par une réorientation professionnelle peut-être. Et je crois que c'est ça ce qui est devant nous. Et n'imaginez pas que ce département solidarité, c'est juste pour avoir une jolie fleur à notre sourire en disant « nous aussi on fait quelque chose pour les pauvres ». C'est plus que ça. Et ça va se développer beaucoup plus loin que ça. Parce que les non-croyants qui arrivent ont des vies en miettes cassées et ils ont besoin d'avoir des équipes fortes ici. Je me réjouis que les enfants y soient. Mais nous avons besoin aussi d'adultes compétents qui aident les autres à faire leur budget, qui aident les gens à retrouver des priorités, à retrouver un message qui les valorise, à retrouver peut-être un micro-crédit, un prêt bien fait, à court terme, bien ciblé, devant témoins, devant notaire s'il le faut, mais des choses qui permettent un développement bien construit. On doit arrêter la bricole dans ce domaine-là. On doit arrêter, je n'aime pas les petits prêts secrets qui se font entre croyants, pour tout vous dire. Je sais qu'il y a plusieurs qui ont fait ça. Je n'aime pas, parce que je trouve ça toujours dangereux. Par contre, ça doit faire partie d'une pédagogie de développement, d'un acte de solidarité. On va voir des gens sortir des troubles et de la misère. L'enseignement des apôtres concernait la justice. Dans Galates 2:10, Paul dit, on s'est retrouvés pour parler de l'évangile, la doctrine, les stratégies pour toucher le monde, et ils nous ont recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai fait. Jacques nous dit, si vous ne donnez pas ce qui est nécessaire au corps, il y a une dimension dans l'évangile qui concerne le corps. Nous ne sommes pas que des esprits, Dieu ne sauve pas que des âmes. On ne prie pas pour les âmes, on prie pour des gens. Et les gens qui vont venir à clé, écoutez bien cette révélation s'il vous plaît, ils vont avoir un corps. Les gens vont avoir un corps. Et comme ils vont avoir un corps, la Bible nous dit, si vous ne donnez pas ce qui est nécessaire au corps, il y a quelque chose à faire pour que nos entrailles s'ouvrent ici. Les pères de l'Église disaient, si l'un des chrétiens se trouve orphelin, il sera bon que l'un des frères qui n'a pas d'enfant le prenne pour son fils. Voilà quelque chose qui fait la communauté chrétienne. Si jamais Richard s'en va près du Seigneur plus tôt, est-ce que quelqu'un ici va veiller que Margaret et les enfants sont soignés? Rodrigue doit savoir que s'il part auprès du Seigneur plus tôt, quelqu'un ici, quelques-uns vont veiller sur les conditions de vie de Marilyn et des enfants. C'est ça l'Église, c'est ça cette solidarité. C'est pour ça qu'il y a ces groupes de maisons dans lesquels nous cherchons à développer davantage des relations plus profondes. Parce qu'il nous faut développer cette manifestation chrétienne de l'amour. Et regardez ce que Julien l'Apostat disait. Les Galiléens, donc c'était les chrétiens, en plus de leurs propres miséreux, nourrissent aussi les nôtres. Et c'est pour ça qu'ils ont tant de succès. Ceux qui sont dans l'abondance et qui veulent donner, donnent librement, chacun ce qu'il veut, pour assister les orphelins, les veuves, les malades, en résumé, tous ceux qui sont dans le besoin. Dans l'histoire de l'Église, on a alterné tout le temps les bonnes choses et les moins bonnes. Là où l'Évangile est entré, il a changé les conditions de vie. Mais par contre, une fausse spiritualité a amené le déshonneur sur la foi. Je pense à Luther, qui à un moment donné, il y avait une révolte des paysans complètement exploités. Et lui venait enfin d'être accepté. Il s'est mis du côté des persécuteurs pour persécuter les paysans, les pauvres qui étaient ici. Et je crois que c'est un déshonneur qui est venu ici. Mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres au 19e siècle en Angleterre, qui est pourtant un pays modèle au niveau de l'Évangile sur beaucoup d'aspects. Les orphelins sont couverts d'œuvres charitables, étaient envoyés dans la mine dès l'âge de 4 ans. Les chômeurs étaient verrouillés dans les maisons des pauvres, décorés de versets bibliques. Et partout dans le monde, la parole de Dieu était citée pour justifier l'esclavage. Dans l'histoire de l'Église, on a fait des bonnes choses et des moins bonnes. Il y a aussi des très bonnes choses. Pendant un siècle, tous les progrès sociaux notoires au cours du 19e siècle sont venus par des chrétiens. Suppression du travail de nuit pour les enfants avant 1850. Le repos du dimanche à la fin du 19e siècle. Vous avez un billet de 5 pounds ici. Il y a une dame en bas qui s'appelle Elizabeth Fry qui a fait une grande réforme pour les conditions de vie des prisonniers. C'est une dame qui a été tellement reconnue ensuite qu'elle est même sur les billets que nos amis anglais distribuent. Les premiers orphelinats. Vous avez ici une photo d'un homme qui s'appelle Wilberforce. C'est lui qui a milité pendant des années pour l'abolition de l'esclavage et du commerce triangulaire dans lequel on prenait les Africains pour les envoyer en esclavage. Et donc, par voie de conséquence, la suppression de l'esclavage aux USA. Le service des santé aux armées avec cette femme, Florence Nightingale. La Croix-Rouge internationale, c'est Henri Dunant, un chrétien suisse. Le scoutisme, le statut des objecteurs de conscience. Toutes ces choses-là, ce sont des chrétiens qui ont dit « L'Évangile ne doit pas juste rester une affaire entre Dieu et moi. » Et Luther nous disait « Si vous prêchez l'Évangile dans tous les aspects, à l'exception des questions spécifiques de votre temps, vous ne prêchez pas tout l'Évangile. » C'est pourquoi Bono nous dit « On se souviendra de cette génération pour trois choses. La guerre contre le terrorisme, Internet et comment nous avons laissé un continent entier s'envoler en flammes alors que nous étions debout regardant le feu qui dévorait ou de temps en temps en jetant un verre d'eau. Je suis convaincu que le message chrétien dans son entier est en jeu, nous dit Bono. Si l'Église ne répond pas aux besoins de ce monde, elle devient inutile, risible, dérisoire. Nous ressemblons à ces histoires de gens qui regardaient les trains de juifs passer vers Auschwitz. Nous serons alors dans cette génération qui regarde les frères et sœurs d'Afrique et du tiers-monde être mis dans les trains de la mort sans jamais bouger. Alors Rick Warren, cet homme qui a écrit le livre « Purpose Driven Life », une vie, une passion, une destinée que nous avons étudiée, a identifié 5 problèmes mondiaux. Le vide spirituel, et ces 5 problèmes, personne ne les a solutionnés jusqu'à ce jour. Le vide spirituel, les gens ne savent pas qu'ils ont été faits à l'image de Dieu, qu'ils ont été rachetés pour avoir une relation avec lui. C'est pourquoi, en Europe, le commissaire de la Commission européenne nous dit « La dépression est devenue le grand cancer, le grand tueur de l'Europe ». Il y a plus de suicides, de morts en Europe par dépression que par les accidents de voiture. C'est vraiment le grand tueur invisible de l'Europe. Il y a le vide spirituel. Il y a le leadership égocentrique. Le monde est rempli de petits Saddam qui veulent juste centrer tout sur eux et abuser dans le pouvoir. Nous avons besoin de leaders qui se donnent aux autres, qui équipent les autres. Nous avons besoin d'un autre type de leadership. La pauvreté, 1 milliard de gens vivent avec moins de 30 euros. Les maladies, au 21e siècle, des maladies tuent des gens par milliers. Nous devons en finir avec cela parce que ces maladies pourraient être soignées. Et enfin, l'illettrisme. Comment des gens peuvent-ils recevoir l'Évangile et une dignité sans pouvoir s'instruire? Rick Warren nous dit « Toutes les dernières années de ma vie vont être ciblées sur comment apporter des solutions ou une implication personnelle à ces 5 problèmes-là. » On pourrait en ajouter d'autres comme l'intégrisme religieux, comme la prostitution, les fleuves d'argent sale qui courent partout. Mais en tout cas, il y a des problèmes proches de nous. Et Dieu ne nous demande pas de résoudre les problèmes de tout le monde, mais il nous demande de résoudre les problèmes de notre monde. Et Sandrine nous dit ce matin, quand elle interroge la commune de Latte, Latte, vous savez où c'est? C'est ici, c'est chez nous. Bien, la commune de Latte nous dit, notre problème, c'est les personnes âgées pendant la canicule. Et là, nous avons un rendez-vous. Oui, mais il y a la plage. Parce que c'est en juillet, c'est en août. Est-ce que les personnes âgées pourraient avoir la canicule, s'il vous plaît, au mois d'octobre? Parce qu'au moins, il y a la rentrée. Est-ce que vous pourriez avoir soif au mois d'octobre, s'il vous plaît, pas en été? Mais là, on touche directement au cœur de notre problème, qui est la religion la plus pratiquée en Occident. Vous savez ce qu'est la religion la plus pratiquée en Occident? C'est égoïsme, la religion la plus pratiquée en Europe, en Occident. Elle a beaucoup de pratiquants. Peut-être peu de croyants, mais beaucoup de pratiquants. Le vice de l'homme qui rapporte tout à soi. Le mépris de l'individualité des autres. Et moi, ce que je voudrais vous dire ce matin, les quelques minutes qui me restent, c'est de passer du pôle de l'égoïsme au monde du besoin des autres. Je me suis demandé, est-ce que nous prêchons un évangile pour égoïstes? C'est vrai qu'on parle de sauveur personnel, d'expérience personnelle, mais pour moi, ce n'est pas, ça ne devrait pas être une expérience qui nous amène à dire... tout est centré sur moi. C'est simplement une appropriation du salut. Je m'implique dans cette relation avec Dieu. C'est mon Dieu, mais ce n'est pas mon Dieu, au sens d'un petit Dieu que j'ai mis dans ma poche. Et je me demande si nous n'avons pas fini par en faire un esprit familier, Vous savez comment on appelle un esprit familier? Écoutez-moi bien. Un esprit familier est un autre terme pour le mot démon. Et je me demande si nous, en Occident, nous n'avons pas fini par faire du Dieu véritable un esprit familier. Un Dieu que nous maîtrisons. Celui à qui nous disons simplement, tu vas me faire du bien, me protéger, me faire réussir. Seigneur, merci de combler mes besoins, de combler mes désirs, de m'aider à accomplir mes buts, de bénir mes projets, de me donner la force d'entrer dans mon programme, de me donner des gens qui m'aident à réussir ma vie, pour qu'ils soient mon paradis. S'ils ne m'aident pas à réussir ma vie, c'est mon enfer. Je crois que là, il y a vraiment quelque chose de grave qui est devant nous. Et je crois qu'il y a quelque chose qui doit changer. Je me dis tout le temps, mais pourquoi les gens s'interrogent autour de nous? Vous savez ce qu'ils disent? Si j'ai fait le plein de tout, pourquoi je me sens encore si vide? Tous les gens autour de nous disent ça. J'ai fait le plein de tout. Avant, je croyais que si je faisais le plein de liberté sexuelle, c'était à cause des tabous de ma sexualité réfrénée, me disait Freud. Alors, je vais y aller. J'ai fait le plein de tout. Et je me sens encore aussi vide. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous dire une chose. À chaque fois, nous sommes comme Pinocchio. Retenez bien ça. Quand Pinocchio mentait, son nez, voilà, augmentait. Chaque fois que nous nous préoccupons de nous-mêmes, on a un petit trou ici qui s'appelle un nombril. Ben notre nombril grandit. Et chaque fois que je m'occupe de moi, que je parle de moi, que je suis centré sur moi, mon nombril grandit. Mais mon nombril, c'est un trou. Et c'est pour ça que le trou devient tellement grand que je me dis, avec tout ce que je mets dedans, pourquoi je me sens encore si vide? Mais tu n'es plus qu'un trou déguisé en humain. C'est pour ça que tu te sens si vide. Tu es un gros trou habillé en humain. Mais au fond de toi, tu as un trou parce que plus tu t'occupes de toi-même, plus tu seras malheureux. Et c'est pour ça que nous sommes ici au cœur même de l'évangile, dans lequel Jésus nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse de son égoïsme un ennemi. Dit autrement, qu'il renonce à lui-même, qu'il fasse de son égoïsme un ennemi. L'ennemi numéro un de notre bonheur, de notre épanouissement, c'est l'égoïsme. Celui qui s'intéresse aux autres devient plus heureux. Et le docteur Beeves, qu'on avait à la Grande Motte ici, il a proposé aux jeunes de son église à une époque un pari. Il a dit pendant 6 semaines, vous allez servir les autres à chaque occasion. Soyez celui qui ouvre la porte aux autres. Choisissez la place arrière pour votre ami et la meilleure place. Sortez les poubelles, même si ce n'est pas votre travail. Proposez-vous comme volontaire pour empiler les chaises à la fin des réunions. Aidez la personne âgée à monter les escaliers. Et demandez-vous chaque semaine, pendant ces 6 semaines, est-ce que je vais mieux ou moins bien? Pendant 6 semaines, si vous voulez, faites l'inverse. À chaque occasion possible, mettez-vous au centre. Soyez demandeur. Demandez au monde de tourner autour de vous. Mettez-vous en première ligne. Disparaissez quand c'est le moment de faire le travail sale ou les tâches humbles. Et inclinez-vous chaque matin devant votre miroir. Au bout de 6 semaines, regardez dans quel état vous êtes. Est-ce que vous êtes plus proche de Dieu et des gens ou plus isolé? Est-ce que votre vie est plus remplie ou plus vide? Est-ce que vous êtes plus satisfait ou plus frustré? Vous serez plus frustré parce que faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même. Mais chercher à se faire constamment du bien à soi-même, c'est agrandir notre nombril qui est un trou qui finit par remplir tout. Notre nombril, si on pouvait le voir en taille réelle, il dépasse, il déborde de partout. Et ça, c'est le cœur de l'esprit antichrétien, c'est l'égoïsme. Et le Seigneur veut nous libérer de ces choses-là. Donc, en conclusion, je voudrais vous dire, je crois que nous devons aujourd'hui prendre une décision de sortir de l'égoïsme. Et pour sortir de l'égoïsme, il nous faut vivre autrement. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, Philippe, avec tous ces versets que tu as donnés, ces idées, le défi Miché? Comment je peux faire quelque chose, moi, dès aujourd'hui? Dès aujourd'hui, je voudrais vous donner une chose à faire, d'être sensible aux autres. 5 choses à faire. Je vais les citer rapidement. Soyez attentifs aux autres, sensibles aux autres. Une personne qui n'est pas égoïste et bienveillante, elle commence à être consciente du besoin des autres. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, soit conscient de celui des autres, s'intéresse à celui des autres. La plupart des couples qui vont mal parce qu'on a commencé à ne plus être conscient de l'autre et on attend juste qu'il soit conscient de moi. T'as vu mon nombril au moins? Et l'autre dit, t'as vu le mien? Tant que tu ne le regardes pas, je boude. Et chacun boude en disant, j'espère que bientôt il va regarder mon nombril. Mais Jésus nous dit, occupe-toi du nombril de l'autre au lieu de t'occuper du tien. Faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même. Il y a un changement complet de mentalité ici. C'est cette compassion. Toute personne que vous allez rencontrer cette semaine, là, à la fin du culte, toute personne que vous allez rencontrer, vous savez ce qu'elle attend ? Une attention, une bienveillance. Est-ce que tu te soucies de moi ? Et c'est ça, aimez-vous les uns les autres. Cette sensibilité, cette compassion que le Seigneur veut nous donner, être remué à l'intérieur au point de bouger et d'agir. Soutenez les autres par de bonnes paroles. Le Proverbe 15, verset 4, nous dit que une parole encourageante est un arbre de vie, une parole méchante brise le cœur. Dimanche dernier, je vous ai dit ceci. Si Dieu vous donnait un euro à chaque fois que vous dites une parole encourageante, et s'il vous enlevait un euro à chaque fois que vous dites une parole négative, de désespoir ou décourageante, seriez-vous riche ? Seriez-vous riche ? Alléluia, je l'espère. Je l'espère. Je pose la question, vous n'êtes pas tenu de répondre. C'est juste à méditer ça et décider aujourd'hui, je veux m'enrichir, je veux quitter mon égoïsme. Il y a quelque chose à faire. Vous savez, il y a des gens dans notre église qui n'ont jamais parlé à d'autres. Bon, si vous êtes là depuis pas longtemps, ça va. Mais simplement d'aller parler, de dire quelque chose de positif. Termine le culte sans dire juste, ça va ? Et puis, tu n'écoutes même pas la réponse, ouais, moi aussi ça va et tu t'en vas. Mais essaye de dire une parole qui valorise, qui bâtit, qui construit, qui donne des compliments. Et je dis chaque fois, on manque des occasions de ne pas dire merci, je trouve que c'est dommage. Participez aux émotions des autres. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Imaginez, un descend les escaliers, l'autre monte. Il y en a un qui rit, l'autre qui pleure. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait quand on se croise ? Celui qui pleure rit, celui qui rit pleure ? Non. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est le moins bête des deux qui prend les émotions de l'autre. Ou le plus mûr. Celui qui a le plus d'amour renonce à son état d'âme pour entrer dans celui de l'autre. Et c'est ça, sortir de notre égoïsme pour aller dans le monde de l'autre, c'est ça l'amour. De se dire, je croise quelqu'un, je suis un peu chagriné, mais je choisis. Lui, il est en train de se réjouir, il a une superbe nouvelle. J'entre dans sa joie. Je suis dans une joie incroyable, je vois quelqu'un qui est dans la peine, je n'ignore pas. J'apprends à communier aux émotions de l'autre. Soyez spontané pour aider. C'est ce qu'a fait le Samaritain ici. Bien souvent, on manque de spontanéité pour aller aider. Et c'est quelque chose qui nous casse. Et enfin, pour terminer, partager, ce n'est pas s'appauvrir, c'est s'enrichir. C'est pour ça, quittons l'idée que ce matin, je suis en train de prêcher un message qui va nous amener tous ensemble dans la pauvreté. Je ne parle pas d'un nivellement par le bas, je parle d'un nivellement par le haut. Et même si vous lisez les documents du défi Miché, même si vous impliquez à aider les pauvres, n'acceptez jamais l'esprit de la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. L'esprit de pauvreté est un démon qui écrase les humains. Nous n'avons pas accepté la misère. Nous ne sommes pas appelés à descendre dans le trou pour vivre au niveau de ceux qui sont en enfer. Nous sommes appelés à tendre la main pour les amener à la prospérité et à sortir de là. C'est pourquoi il nous faut continuer à développer cette mentalité de richesse, de prospérité. Continuez à donner vos dîmes. Gagnez le plus d'argent possible. Donnez le plus d'argent possible. Épargnez le plus d'argent possible. Faites prospérer les gens le plus possible, faites-leur gagner de l'argent le plus possible, de façon à ce qu'il y ait de l'abondance et des ressources dans cette église, pour que nous puissions aider le plus de gens possible ici. Alors, les actions cette semaine, je voudrais vous lancer cette proposition. Soyez bienveillants au moins envers 7 personnes, ça va être facile, à la maison. Pourquoi ne pas être un peu plus courtois avec les gens de la maison ? Très souvent, on est très poli avec les gens qui sont à l'extérieur, et puis on commence à parler aux gens de chez nous. Et là, on parle comme si c'était les animaux domestiques. Et si on prenait la décision d'être courtois à la maison, si on prenait la décision de servir un peu plus à la maison, si on prend la décision même avec, au travail, le patron, vous savez, le patron au caractère un peu difficile, le patron avec caractère difficile, mais l'employé qui est un peu toujours en train de se plaindre, le collègue qui est toujours lent et du coup, vous devez vous payer le boulot qu'il ne fait pas. Alors, moi, je voudrais vous dire une chose, vous n'êtes pas obligé de l'apprécier, mais vous pouvez être bienveillant quand même. Ce n'est pas par le mérite, c'est juste parce qu'on veut le faire, on choisit de le faire. Celui qui est bienveillant avec les autres se fait du bien à lui-même. Les membres de l'Église, accueillez, aidez, valorisez, encouragez, pourraient servir même un peu plus loin que tout cela. Si vous êtes touché ce matin et que vous prenez une décision devant Dieu de sortir du monde de l'égoïsme, dire aujourd'hui c'est défi Miché dans le monde s'occupe des pauvres, mais moi je m'occupe de moi. Et je prends une décision. Mon nombril ne sera plus le centre de ma vie. Mon état d'âme ne sera plus le centre de ma vie. Mes caprices, je ne vais plus céder à ça. J'accepte de m'occuper des autres. Ici, il s'agit d'un DVD Pour les jeunes, c'est excellent et regardez bien ça. Ce sont des jeunes qui ont payé sur leur propre budget de faire un voyage dans un pays d'Amérique latine pour découvrir des enfants qui sont orphelins et ils ont décidé de parrainer certains de ces enfants. On entendait hier soir une jeune fille qui a 13 ans qui vient de dire « Je veux parrainer un enfant, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc, je renonce à mon téléphone portable, à mon abonnement pendant un an pour pouvoir parrainer un enfant, une fille de 13 ans. » Ça, c'est quelque chose que Dieu agrée. Et je voudrais nous inviter aujourd'hui à se dire « Mais il y a quelque chose dans ma vie. Je veux sortir de mon égoïsme. » Et on va vous proposer des actions possibles. Et justement, pourquoi pas même du parrainage d'enfants. On le fait au Maroc, on le fait dans d'autres lieux, on le fait au Burundi. Moi, je crois qu'on doit aider. Et je vous dis un dernier mot, aider dans les églises. Parce que les églises sont les agences de transformation les plus fiables. Elles restent. Parfois, les organisations, etc., ça parle, ça change tout le temps de monde. Ils ont besoin de nouvelles personnes. Mais aider les gens dans les églises. Il y a une jeune fille qui disait, je me suis laissé sonder et j'ai vu ce qui doit changer dans mon cœur, dans ma vie. Simplement, je crois qu'on peut se laisser sonder, même si c'est quelques secondes. Si on peut dire, Seigneur, je reconnais, je suis égoïste et je m'en repens. Je te suis réellement, Seigneur. J'accepte de faire de l'égoïsme mon ennemi, parce que c'est ça être chrétien. Et déjà cette semaine, merci pour les occasions de renoncer à moi-même. Je veux chercher l'intérêt des autres. Et en faisant du bien aux autres, je serai plus heureux. Seigneur, je prends une décision radicale de faire de l'égoïsme mon ennemi pour te suivre, Jésus. Pour te suivre, Jésus. Merci, Seigneur. Si vous êtes avec moi dans cette prière, vous allez la dire soit à voix haute telle qu'elle est affichée à l'écran, soit avec vos propres mots comme vous voulez. Si vous savez aujourd'hui que c'est un moment où vous prenez une décision, quelque chose qui doit changer dans ma vie, je veux accepter ce changement d'orientation, faire de l'égoïsme mon ennemi. L'égoïsme sera mon ennemi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse de l'égoïsme son ennemi. Et faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même. Simplement, si vous l'acceptez, bien, avec moi, levez votre main devant le Seigneur et priez simplement à voix haute. Et on terminera le culte comme ça. On ne fera pas un long appel charismatique ce matin. On a eu un temps magnifique tout à l'heure sur le plan de la louange, un temps prophétique. Mais là, c'est une réponse. C'est une vie, un changement de cœur que Dieu attend. Et vous qui levez votre main ou toute l'Église, simplement, élevons nos voix. Courtement, peut-être, mais sincèrement. Je vais faire de l'égoïsme mon ennemi. Je vais m'impliquer pour le bien des autres. Peut-être certains ici peuvent commencer à penser, à rejoindre Sandrine. Des actions sont possibles. Des actions sont possibles l'été prochain, dès maintenant, le Noël de l'espoir bientôt. Je veux peut-être rejoindre cette équipe-là et donner une heure par semaine, ou en tout cas dire une heure par mois, mais dire à Sandrine, « Sandrine, il y a quelque chose dedans de moi qui veut bouger. Il faut que je me mette en action. » Il faut que je fasse quelque chose avec toi, Sandrine. Tu auras plus d'offres d'emploi que de travail que tu seras capable de fournir. Parce qu'on veut changer. On veut changer. Que Clé ne soit plus une église de l'égoïsme, mais une église qui donne le cœur de Dieu à d'autres. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici, Seigneur. Vois nos cœurs. Sonde-nous aujourd'hui. Tu vois où nous sommes. Tu sondes nos cœurs. Tu nous connais. Tu sais, Seigneur, combien on a grandi dans une génération d'enfants gâtés, de gens gâtés. Nous, nos parents, nos enfants, nous sommes certainement coupables devant toi, Seigneur, d'avoir eu un faux Dieu, le Dieu de l'ego. Et nous changeons de religion aujourd'hui, nous quittons l'égoïsme. Nous voulons quitter cette planète dans laquelle tout tourne autour du moi. Seigneur, nous voulons regarder cela comme de la boue. Et je te prie que tu nous touches, Seigneur, profondément dans nos cœurs, dans notre compréhension, pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. Au nom de Jésus, pour nous impliquer. Seigneur, je prie pour une croissance de compassion. Je prie pour des cœurs remplis de larmes ici à Clé. Je prie pour des cœurs, Seigneur, qui cessent de se protéger. Seigneur, je reconnais, j'ai protégé mon cœur de cette sensibilité pendant des années. Mais tu sais, je fais tomber ces murs, ces barrières, ces voiles. Je veux pleurer avec toi. Je veux agir avec toi, Seigneur. Saisis notre assemblée. Au nom de Jésus, merci pour la libération de l'égoïsme. Merci pour le cœur de Jésus entre nous. Au nom de Jésus-Christ, nous recevons, nous te bénissons, notre Dieu. Amen. Et béni soit Dieu pour tous les obsèques des égoïstes ce matin.